conférence sur, qui se déroule dans le cadre du 4e printemps des sciences humaines et sociales, sur la thématique générale que vous avez pu voir sur le programme que vous avez pris à l'entrée, que faire du travail. Donc, vous avez vu que c'était un cycle pluridisciplinaire. Et ce soir, nous accueillons donc deux conférencières, Pascale Molinier et Laurence Théry. Et nous avons décidé d'inverser légèrement l'ordre prévu dans le programme pour des questions de, peut-être de cohérence de propos, puisque Madame Laurence Théry, qui est à ma gauche, va commencer son propos. Alors, je me présente rapidement, je suis Sophie Fantoni, médecin du travail et juriste, et voilà, donc je me propose juste de garder le timing, mes deux oratrices sont déjà parfaitement cadrées sur leurs propos, donc il n'y aura aucun souci, et puis éventuellement, effectivement, de pouvoir vous donner la parole par la suite pour des questions. Alors, rapidement, et peut-être Laurence Théry pourra compléter si je ne suis pas complètement exhaustive, et ça ne risque pas de l'être, vu son expérience et effectivement et son passé professionnel. Laurence Théry est une ancienne inspectrice du travail, qui est aujourd'hui directrice du CESTP et ARACT Picardie, et qui a particulièrement travaillé sur les questions du changement du travail et des impacts, notamment sur les impacts en matière de santé mentale. Ce soir, elle va justement insister sur les transformations du travail et sur le rôle qu'a pu avoir les syndicats dans la façon dont ces transformations peuvent être appréhendées, peuvent évoluer et peuvent avoir des impacts. Donc, je vais peut-être vous laisser tout de suite la parole pour que vous puissiez nous présenter votre propos.
Merci, bonjour. Donc, effectivement, en 2009, j'étais venue à Lille à l'invitation de Catherine Legrand-Sébille sur un séminaire éthique et travail de Lille 2. Et pour présenter les résultats d'une recherche-action sur l'intensification du travail qui s'était déroulée en milieu syndical. Et j'avais juste eu le temps de développer toutes les questions liées aux effets de l'intensification du travail dans le monde du travail, sur les salariés, et toute la partie finalement pratique syndicale qui se développe face à cette intensification et à la montée de la souffrance au travail. J'avais pas vraiment eu le temps de le développer, donc... C'est ce que je me propose de développer ce soir. Et donc, cette présentation s'appuie donc dans ces grandes lignes à la fois sur cette recherche-action qui avait été mise en œuvre par la CFDT en 2010 et puis sur une autre recherche-action qui, elle, a été mise en œuvre par la CGT en 2009 sur les questions du travail, d'ailleurs avec les mêmes universitaires. Et je m'appuie également sur l'expérience des interventions en entreprise réalisées dans une ARACT. Alors, ces différentes expériences sont assez différentes de par leur cadre. Elles ont cependant un point commun, c'est celui de l'attention portée aux logiques de transformation dans l'entreprise, dans le milieu de travail, à partir du travail réel et selon une démarche qui engage les représentants du personnel et les salariés. Et donc, je vous propose de mettre en discussion avec vous et avec Pascal aussi des éléments de connaissance sur l'intensification du travail et la souffrance au travail à travers un diagnostic critique mais concret des évolutions du travail aujourd'hui, des éléments de connaissance aussi sur le travail syndical et puis des éléments aussi de réflexion sur les pratiques de transformation ouvrant, je l'espère, des voies pour l'action. Donc, les transformations qu'a connues le monde du travail depuis les 20-30 dernières années se sont traduites par une intensification du travail, si l'on en croit les différentes enquêtes, notamment du ministère du Travail, de la DARES, l'enquête Sumaire, etc. On y apprend que celle-ci se caractérise par la combinaison de différentes contraintes pesant sur le travail, les contraintes de type industriel, qui renvoient plutôt aux questions de délai, de cadence, de travail répétitif, de pénibilité physique, auxquelles s'ajoutent les contraintes d'ordre commercial, qui renvoient plutôt aux questions de contact avec le public, de variabilité des demandes clients, et auxquelles s'ajoutent encore les contraintes liées au contrôle de l'activité qui se renforce avec l'évolution du reporting, le contrôle, l'autocontrôle même. Et ce cumul de contraintes concerne aussi bien le secteur industriel que le secteur des services et aussi les services publics. Qu'il s'agisse d'un ouvrier de l'automobile, d'une caissière de supermarché, d'un préparateur de commandes en logistique, l'intensification du travail est répandue dans tous les secteurs d'activité. Elle a, cette intensification, des effets directs sur la charge de travail, sur les relations de travail et interpersonnelles dans les entreprises, sur les possibilités de coopération au sein des collectifs de travail. entraînant une dégradation de la santé au travail, augmentant les inégalités de santé liées au travail d'ailleurs, et notamment les atteintes à la santé mentale, les troubles dépressifs, anxiété, le développement des TMS, le développement aussi des maladies cardiovasculaires. Cependant, ce regard sur le travail, à travers les enquêtes, les enquêtes statistiques, nous donne une vision quantitative de l'intensification du travail, plus de quelque chose en fait. Là où pour comprendre, quand on est dans une entreprise et dans une logique et dans une optique de transformation, il faudrait davantage prêter attention aux changements qualitatifs. Les nouvelles méthodes d'organisation qui ont pour conséquence son intensification sont susceptibles d'entraîner une dégradation de la qualité du service, du produit et plus globalement du travail lui-même. Et ce dont je vais essayer de rendre compte aujourd'hui, c'est de la nécessité de parler du travail non pas de loin, mais de près. De dépasser le discours de dénonciation qui est souvent porté et qui est important, mais qui est insuffisant pour enclencher de la transformation et reprendre la main sur les évolutions en cours dans le monde du travail. Et c'est le sens d'ailleurs des deux recherches-actions qui ont été lancées en milieu syndical. Et d'ailleurs aussi, dans le cadre des interventions en entreprise, on est confronté à ce même discours globalisant, général, sur la souffrance au travail, qui est assez paralysant pour l'action. Donc à chaque fois, il s'agit de comprendre un peu finement ce qui se joue dans une situation singulière qui est cause de conflits, de souffrances et d'atteintes à la santé. Et finalement, quels éléments de compréhension peut-on élaborer face à l'intensification du travail et en quoi ces éléments de compréhension, construits avec les acteurs eux-mêmes, leur donnent des ressorts, des leviers pour penser et transformer la situation au plus près du travail? Je vais m'appuyer sur un exemple qui est donc tiré d'une des deux recherches-actions en milieu syndical, pour essayer de développer un certain nombre d'enseignements plus globaux. Alors, l'exemple que j'ai pris se situe donc dans une cantine scolaire d'une grosse collectivité. Deux femmes, une chef cuisinière et sa seconde, ont un vécu douloureux des relations qu'elles ont avec la hiérarchie. Manifestations dépressives, crises de larmes. Et aussi, c'est important de le noter, frayeur à l'idée d'une intervention, et notamment syndicale. Elles sont néanmoins d'accord pour discuter ensemble avec la permanente syndicale afin de réfléchir et d'essayer de comprendre la situation de travail. Le récit pointe un incident significatif sur lequel il faut s'attarder. Alors, cet incident, c'est le fait que cette chef cuisinière assume seule les repas depuis 15 jours, sa seconde est en partie dans une autre cuisine en remplacement. Nous sommes dans un contexte d'absentéisme important. Pendant 15 jours, cette chef cuisinière s'est débrouillée seule. D'ailleurs, l'organisation était bien contente d'avoir quelqu'un qui fait face. Mais à son arrivée dans la cuisine, ce jour-là, elle appelle sa hiérarchie pour avoir une personne en renfort. Et à 10 heures, réponse de la directrice, « J'ai demandé aux deux responsables de secteur, ils disent que vous pouvez parfaitement assumer seule la purée et les œufs mimosa. Alors là, j'étais découragée », livre-t-elle. L'incident prend place dans un espace social particulier. Elle a une perte de soutien car sa seconde n'est plus là. Elle demande de l'aide à sa hiérarchie et elle vit la réponse négative comme un désaveu de son expérience, de son expertise, de son professionnalisme. Et il faut donc essayer de chercher avec elle pourquoi ce n'est pas possible de réaliser aujourd'hui le menu du jour, alors que ça fait 15 jours qu'elle le réalise en prenant sur elle, mais enfin elle le réalise sans rien demander à personne. Et donc, elle est dans une relation de travail qui témoigne de la personnalisation et du soin qu'elle apporte au travail. En effet, elle raconte, pour les œufs mimosa, puisque finalement, c'est ça le problème, pour les œufs mimosa, on peut se contenter de couper les œufs en deux, de mettre sur chaque moitié une cuillère de mayonnaise, mais moi, j'enlève les jaunes, je les mélange avec de la mayonnaise et un peu de thon, et je regarnis les œufs. Alors, ça peut vous paraître totalement trivial, totalement anecdotique, et pourtant, c'est le cœur, si je puis dire, de sa souffrance au travail. Parce que ce qu'on voit dans sa façon de décliner la recette, c'est que cette cuisinière fait des améliorations par rapport à la prescription de sa hiérarchie. Elle enrichit, elle améliore, elle apporte sa touche personnelle. On lui demande de préparer un repas, mais elle fait plus que ça, puisqu'elle ne se contente pas de préparer un repas conformément au menu, elle fait de sa propre initiative des améliorations qui ne sont pas demandées. Et elle explique. En fait, il faut que les enfants mangent. Et pour certains, c'est leur seul repas complet de la journée. C'est vrai qu'on est dans une grosse collectivité du sud de la France qui n'est pas forcément favorisée socialement. On voit là que son métier, donc ce n'est pas de préparer des repas, mais de faire en sorte que les enfants mangent. Et elle a remarqué que sa recette était appréciée, car, ajoute-t-elle, je passe en fin de repas voir ce que les enfants ont aimé et ce qu'ils ont laissé. Cela a également un coût psychique de préparer un repas qui va finir à la poubelle. Et donc son récit montre que finalement, c'est son rapport au travail qui est fragilisé. Ces améliorations sont fondamentales pour donner sens et utilité à son travail. Or, cette contribution personnelle est menacée par la vision de la hiérarchie pour qui le seul objectif est de préparer des repas et dans les temps. On voit à travers cet exemple que les tentatives pour donner forme humaine à son travail sont menacées et contrariées par la pression à l'accélération, le manque de personnel, les logiques gestionnaires qui méconnaissent ce rapport sensible au travail et la mobilisation dans le travail. On voit alors que c'est à partir d'éléments de compréhension qui sont à chercher dans le détail qu'on peut envisager l'action. Et à partir des e-mimosa, comme incident significatif, les représentants du personnel et les salariés peuvent commencer à tirer les fils de la pelote dense du travail. Et dans ces conditions-là, l'absentéisme n'est pas le fait de salariés encore et toujours malades, mais est mis en relation avec une organisation tendue qui dégrade les conditions de travail et le rapport au travail et qui augmente l'absentéisme en cercle vicieux. Une sollicitation du rapport sensible au travail, notamment lorsqu'il faut faire avec le peu d'effectifs et une pression à l'accélération qui le contredit. Apparaît également, dans cette enquête syndicale, une pression particulière sur les femmes, non diplômées, assistantes, secondes, bonnes à tout faire, remplaçantes. Cette expérience met en évidence des différences de genre. L'enquête syndicale a creusé cette question en essayant de voir qui était en position de souffrance, d'absentéisme et quel lien cela pouvait avoir avec le travail, avec l'emploi, avec les fonctions occupées. Et en creusant, finalement, elles se sont aperçues que les hommes étaient plutôt en possession d'un diplôme professionnel, en communauté d'appartenance avec les coordinateurs qui organisent la répartition des effectifs dans les cuisines, plus souvent en agent de maîtrise, avec un ressenti avant tout de fatigue. En revanche, les femmes, dans cette mairie, sont souvent non diplômées, et donc leur savoir-faire repose sur leur expérience professionnelle, moins souvent agent de maîtrise que les hommes, plus souvent seconde, plus souvent en remplacement, plus âgées que les hommes, fragilisées, avec un sentiment de fatigue et un sentiment d'attaque contre le sens du travail. Et donc, on voit là, à partir d'une enquête syndicale qui s'appuie sur la contribution importante du personnel à l'analyse, mais qui n'est pas sans difficulté, puisque au début, il y avait quand même une réticence à déballer ça, si je puis dire, au local syndical. Mais donc, grâce à cette contribution qui, malgré tout, s'est construite avec les salariés, la formalisation des résultats permet la mise en discussion des éléments recueillis auprès des salariés en réunion plus large. Et des pistes de développement à travailler collectivement se font jour sur la question de l'absentéisme et des conditions de travail, sur la place des femmes dans le travail, en fonction des statuts, des fonctions, de la reconnaissance de leur contribution spécifique. Donc, à partir de cet exemple, qui moi, me semble assez intéressant, de ce que on part d'une situation, qui se caractérise par une crise de larmes, etc., une perte de confiance, dans un contexte particulier, quel type d'enseignement plus large on peut essayer de tirer sur le monde du travail aujourd'hui et la place de l'action syndicale. Alors, j'ai essayé de tirer quatre enseignements qui me semblent importants et qui me semblent un peu plus larges que ce seul exemple-là, mais qui s'appuient sur les analyses de cette enquête syndicale. La première, c'est que travailler demande toujours une forme de mobilisation dans un rapport sensible au travail. Et que c'est précisément ça qui est attaqué par l'intensification du travail. Le deuxième enseignement, c'est que, finalement, la question de la souffrance au travail a mis les syndicalistes dans un questionnement par rapport à leur pratique syndicale autour des questions du travail. Et que ça, c'est assez nouveau depuis quelques années. Troisième enseignement que je vais essayer de développer avec vous, c'est que... En réinterrogeant les pratiques syndicales autour des questions du travail, finalement, les syndicalistes découvrent que l'analyse du travail avec les salariés est les met dans un véritable processus émancipateur et les engage dans une vraie démarche de transformation. Et puis le dernier enseignement, c'est que finalement, l'action syndicale finalement se situe entre l'infiniment petit et la question du bien commun. Alors je vais revenir sur l'ensemble de ces enseignements. Le premier, donc, travailler demande toujours une forme de mobilisation dans un rapport sensible au travail. Au début, le travail impose de se plier à un but assigné par autrui. Ce but, c'est le résultat attendu par la hiérarchie, en l'occurrence préparer le repas. Pour l'observateur inattentif, le travail se résume bien souvent à cela. Cependant, en rester là ne permet pas de comprendre les enjeux de l'engagement dans le travail et les raisons de ce qu'on appelle la souffrance. S'il y a engagement et mobilisation, c'est que le travailleur espère y trouver la satisfaction d'un besoin. Il existe donc un second niveau entre la prescription, le but assigné par autrui, et puis le besoin de trouver la satisfaction d'un besoin qui renvoie au mobile de la personne qui travaille, c'est-à-dire en l'occurrence que les enfants mangent. C'est ça qu'elle poursuit dans son activité de travail et qui coexiste avec ce qui est attendu par la prescription. Et rapidement, le travailleur découvre que sa façon de travailler a des conséquences sur l'activité des autres, que ce soit des collègues, des patients, des clients, des usagers, en l'occurrence là les enfants qu'il s'agit d'accueillir. Et des aspects inattendus apparaissent avec l'expérience professionnelle, porteurs d'enjeux relationnels qui sollicitent ma personnalité, mon histoire, ma sensibilité. Et tout travailleur éprouve alors le besoin d'apporter des réponses, en l'occurrence les améliorations, à des dimensions de la situation que la consigne ne prenait pas en compte. Et donc l'activité de travail déborde la consigne. Et c'est important pour comprendre ce qu'on appelle la souffrance au travail. La souffrance vient de cette impossibilité de déborder dans le travail, d'une activité de travail qui se rétrécit et qui s'appauvrit. Les conflits dans le monde du travail méritent d'être considérés au regard de cette possibilité ou non de donner forme humaine à son travail et d'en débattre avec les autres, car chacun est porteur de sa propre dimension du travail bien fait et qui n'est pas, bien évidemment, la même pour tout le monde. Donc la difficulté réside dans le fait que ce point de vue du travail, expression du rapport sensible et singulier à la situation de travail, avec ses contradictions, avec ses dilemmes, est partiellement obscur, y compris pour celui qui travaille, y compris pour le travailleur lui-même, et donc difficile à élaborer. Alors qu'en face, le point de vue du management, fondé sur les indicateurs préfabriqués, quantitatifs, et d'ailleurs presque interchangeables d'une entreprise à l'autre, c'est un discours standardisé et facile à exprimer. Et donc on a une forme de conflictualité empêchée, rentrée, qui ne trouve pas voie d'expression, liée à la difficulté d'élaborer un point de vue sur le travail, et qui se traduit massivement par les atteintes à la santé, variables en fonction des individus et des situations. Et on voit bien que seule cette chef cuisinière, elle n'aurait pas réussi à élaborer et à mettre à jour les raisons de sa difficulté aujourd'hui à réaliser la recette qu'on lui demandait. Et donc cette élaboration, elle nécessite de discuter avec d'autres autour de ces difficultés dans le travail. Et donc ça me semble important pour comprendre aujourd'hui d'où vient la souffrance au travail et précisément qu'elle ne vient pas de problèmes interpersonnels ou de personnalité plus ou moins ou quoi ou qu'est-ce. Le deuxième enseignement que je souhaite discuter avec vous, c'est finalement dans quelle mesure cette question-là de la souffrance au travail a renouvelé les pratiques syndicales autour des questions du travail plus globalement. Les syndicalistes sont dans des difficultés importantes pour appréhender ces questions de souffrance. Entre la dénonciation et l'action, il y a un fossé difficile à franchir. Or, la pratique syndicale développée dans notre exemple n'est en rien surplombante et directive. Elle est centrée sur la rencontre avec les salariés. Et lors de cette rencontre, le syndicaliste n'a rien à proposer, et notamment pas de solution, mais se présente comme cherchant à comprendre. Alors, cherchant à comprendre quoi ? Le militant syndical est réputé connaître son entreprise, il sait ce qui s'y passe, le travail des salariés n'a pas de secret pour lui. D'ailleurs, c'est bien souvent ce que les salariés eux-mêmes renvoient aux représentants du personnel. « Mais tu viens me demander ce que c'est que mon travail, mais tu le connais, tu fais le même. » Or, voilà, c'est pas si sûr. Et tant qu'on n'a pas, précisément parce que chacun, même si on fait le même métier, on fait un travail différent, on a une activité de travail différente. Et tant qu'on n'a pas été voir, on ne sait rien du travail dans le détail, des difficultés que rencontrent les salariés et de la façon dont ils se débrouillent pour les résoudre. Bref, de tout ce qu'ils font et de tout ce que le travail leur demande pour que la production sorte sans défaut, que le client soit satisfait, l'usager servi, etc. Et naturellement, ce travail est invisible, parfois même, y compris pour celui qui le met en œuvre. Et toutes ces opérations, toutes ces décisions que le salarié prend pour que le travail se fasse, il n'en a bien souvent pas conscience lui-même. Ce sont des connaissances incorporées, au sens dans le corps précisément, et qui ne viennent pas forcément ni spontanément en mots, et d'ailleurs pour lequel il n'y a pas toujours de mots appropriés. Et donc parler de son travail n'est pas chose facile. Et dans un premier temps, quand les syndicalistes rencontrent les travailleurs sont tentés de dire ce qu'ils imaginent que le syndicaliste attend, ou bien ce qui est communément répondu sur le métier, à savoir que le téléopérateur sur un centre d'appel répond au téléphone, etc. Or, les travailleurs construisent parfois des défenses pour tenir le coup, ce qui peut les conduire à dire qu'il n'y a pas de problème ou à renvoyer sur un autre problème. En conséquence, pour les syndicalistes, approcher la situation de travail telle que vécue par le salarié, rencontrer le travail réel, n'est pas si simple. Et les militants, doivent trouver les moyens de rentrer dans cette boîte noire qu'est le travail réel, par le biais d'une confiance à instaurer avec les salariés et au moyen d'entretien, etc., et qui va permettre de comprendre ce qu'est le travail en question. Alors, cette démarche syndicale s'est déployée à partir de discussions individuelles permettant de mettre en forme ce qui est recueilli pour le verser au débat collectif. Et là, les outils construits dans cette démarche sont des supports de discussion avec les salariés, avec l'employeur et entre syndicalistes aussi. Et ces constructions sont un élément central de la transformation. C'est à partir de là que d'autres représentations des problèmes du travail sont possibles, pour les salariés comme pour les syndicalistes, que les syndicalistes et les salariés créent un point de vue qui résiste au point de vue dominant selon lequel la souffrance est liée à des problèmes personnels ou encore qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est comme ça. Et ces supports de discussion ouvrent sur un autre possible. Ils permettent d'imaginer un devenir différent où chacun joue un rôle actif. En réinitiant la parole, ils permettent aux salariés et aux syndicalistes d'élaborer ce qu'ils veulent défendre collectivement dans leur contexte de travail. Et cette discussion se fait à partir d'un objet commun qu'est le travail. La pratique syndicale s'appuie sur l'analyse du travail, d'abord pour se montrer à soi en quoi on contribue à la production et quelle est précisément cette contribution positive à la production. Et dans cette démarche de révélation de soi-même, le recours à l'analyse du travail est central, permettant de comprendre le travail de près, d'appréhender sa positivité, y compris lorsqu'il porte atteinte à la santé. Et considérer le travail comme activité, et pas seulement comme aliénation, permet de reconnaître et de faire reconnaître que le travailleur construit la situation qui n'est jamais uniquement passif. Cette revalorisation du travail passe aussi par une conception de la santé qui n'est pas seulement indexée sur des indicateurs médicaux fixes, mais qui est comprise comme l'expression de la vitalité individuelle, c'est-à-dire comme la capacité psychophysiologique de l'individu à vivre pleinement son agir dans une dynamique et un développement. Et ça, en termes de perspective, c'est essentiel pour faire émerger des modalités de résistance collective, là où les collectifs s'effondrent, là où les salariés sont isolés. Et donc finalement, avec cette expérience, ces deux expériences syndicales, elles ont montré que les ressorts de la mobilisation traditionnelle des syndicalistes, à savoir la revendication, la grève, la manifestation, se trouvent enrichis de modalités renouvelées. Alors difficiles, mais difficiles pour tout un tas de raisons, mais permettant de rendre compréhensibles et explicites et partageables les dilemmes du travail. Et donc, ça m'amène au troisième enseignement que je voulais discuter avec vous, à savoir que c'est cette capacité à rentrer dans l'analyse du travail avec les salariés qui permet d'enclencher modestement, mais dans le contexte actuel, c'est pas si mal, des transformations possibles et des transformations qui sont assumées collectivement. Je sais pas, je suis peut-être un peu longue là, non ? Ça va ?
Encore 5 minutes.
D'accord, bon. Ces enquêtes syndicales, finalement, ont recueilli une foule d'éléments sur le travail qui, dans la démarche, sont renvoyés aux intéressés, et non pas sous forme de résultats avérés, mais comme support à la discussion, à l'échange, à la confrontation et au désaccord. Et ça, c'est aussi important à pointer que sur les questions de souffrance au travail, le fait de pouvoir échanger sur la façon dont on travaille, sur la façon dont on fait son travail, y compris en pointant des désaccords entre salariés sur ce que c'est qu'un travail de qualité, est absolument indispensable pour et sert de base à l'élaboration et au développement du point de vue de chacun. Un tel processus fabrique en effet de la capacité de discussion individuelle. Je suis riche de mon expérience, mais aussi de celle des autres, qui devient une ressource mobilisable, et également de la capacité d'action collective, puisque la revendication est assise sur une base qui intègre la diversité des points de vue et qui est co-construite avec les salariés. Et cette démarche change les conditions du débat avec l'encadrement en permettant aux salariés de peser sur les évolutions du travail et contribue à construire un collectif porteur de protection pour la santé des travailleurs. Alors, je conclurai sur cette dernière partie qui est que, selon moi, l'action syndicale, finalement, elle se situe entre l'infiniment petit, hein, les œufs mimosa, et puis la question du bien commun. Et que l'intensification du travail, d'un point de vue qualitatif, prend la forme de l'empêchement de faire du bon travail. Et cet empêchement revient à nier ce dont le travail est lui-même porteur, et encore plus à disqualifier une condition propre de l'espace démocratique, c'est-à-dire la capacité à porter attention à l'autre. Alors, je m'explique, l'intensification du travail, finalement, entame cette caractéristique du travail dans sa dimension de soin et d'attention auquel il renvoie. L'intensification rend compliqué ce type d'activité de travail orientée vers le souci du travail bien fait, la capacité à percevoir, anticiper, adapter, de sorte que le travail ne soit pas seulement pensé en termes de productivité, mais bien plus dans sa dimension qualitative. L'intensification, au contraire, impose en effet de ne pas s'apesantir sur les détails, de passer d'une tâche à une autre dans une accélération continue, au détriment du détail qui manifeste l'attention et l'engagement du salarié. Et la souffrance apparaît ainsi quand l'organisation du travail attaque cette subjectivité dont témoigne la capacité à engager sa singularité dans le travail. Et si cette dimension est mise à mal dans ce processus d'intensification, c'est bien parce qu'elle est considérée comme secondaire et dans une certaine mesure comme inutile dans le cadre de production et de productivité toujours accrue. Et la mise à mal de cette dimension essentielle du travail est susceptible de remettre en cause les fondements de l'espace démocratique dans son ensemble, s'il n'est plus possible de développer une posture d'attention aux objets du travail, alors que les possibilités de coopération dans le travail s'effritent, le monde du travail n'est plus un espace où l'on peut apprendre à travailler ensemble, ce qui suppose de pouvoir se parler, de se faire confiance, de s'aider, mais un univers de concurrence. Et on pointe là un certain nombre de dangers lié à l'impossibilité de faire l'apprentissage du vivre ensemble par le travail. Et finalement, la dégradation du monde du travail aujourd'hui a un impact dans la cité que les syndicalistes portent aujourd'hui à travers à la fois cette question du souci du détail, dont finalement, qui intéresse assez peu de monde aujourd'hui dans le monde du travail, et cette question du bien commun, puisque apprendre à travailler ensemble, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Et il s'agit là d'un pôle de résistance ouvert qui permet de poser les problèmes actuels un peu autrement et de construire une position de défense active des salariés et de réinterroger les modes de gouvernance actuels dans les entreprises. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup, Laurence Théry, de nous avoir fait cet exposé, effectivement, qui souligne, et je crois qu'il y aura, ça ne manquera pas d'entraîner tout à l'heure nombreuses questions, qui souligne donc la nécessité d'apporter, de considérer le travail de très près, dans le détail, dans toute son individualité, pour apporter un diagnostic précis, justement, de ces transformations du travail et ses apports également sur la transformation des pratiques syndicales. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous en enchaînions tout de suite avec l'intervention de Pascal Molinier et que nous gardions, effectivement, nos questions et la discussion pour la suite. Donc, je présente rapidement, effectivement, aussi Pascal Molinier, que je remercie à nouveau d'être venu aujourd'hui. Elle est professeure de psychologie, directrice adjointe de l'unité transversale de recherche en psychogénèse et psychopathologie à Paris 13 et Je crois que le propos de Laurence Théry a dû aussi particulièrement, d'ailleurs, je vous voyais opiner régulièrement, effectivement, particulièrement vous intéresser sur les aspects, justement, des enjeux de la santé mentale dans les organisations contemporaines, sur lesquels vous avez notamment travaillé, et pour lesquels vous avez, vous aussi, travaillé sur la question du genre. Donc, je pense que vos propos étaient en très grande cohérence. Aujourd'hui, votre propos s'articule autour de la souffrance au travail, réalité et médiatisation, et je crois que vous nous disiez que vous alliez nous présenter une approche clinique autour d'une enquête. Donc je vous passe immédiatement la parole et puis je vous remercie.
On l'entendait formidablement bien dans l'exposé de Laurence Théry, hein. C'est quand ce qui compte pour la personne, ce qui est important pour elle, est compromis, empêché, gâché. C'est l'exemple des œufs mimosa. Détail. Alors, quand les sœurs Papin assassinent leur patronne en 1932, au Mans, ce qui sera, elles ne le savent pas, mais ça va être le geste fondateur de la psychopathologie du travail, tout de même, elles le font au motif d'un fer à repasser qui dysfonctionne. Détail, dans un contexte fécond, dirait-on, en psychopathologie classique. Mais, pour des bonnes à tout faire, un fer à repasser, c'est peut-être pas un détail. Un fer à repasser, ça compte. Et ça compte même beaucoup, en particulier pour des bonnes à tout faire qui sont réputées brodeuses et aimant le vêtement, la parure. Voilà. Donc, je vais effectivement vous parler des suicides liés au travail, en essayant de sortir donc de ce discours un peu binaire auquel Laurence Théry déjà faisait allusion, hein, cette opposition tranchée entre d'un côté les gens qui disent c'est la faute au travail, hein, le travail tue, et puis de l'autre côté, alors qu'il y a un discours qui est plus facilement, qui s'affiche plus facilement du côté syndical, et puis de l'autre côté, un discours qui, lui, est plus patronal et qui consiste à dire « il, elle, était fragile ». Voilà. Donc, c'est un débat binaire, hein, qui nous fait dire et entendre quand même beaucoup, beaucoup d'âneries, principalement parce que nous avons du mal, je pense, dans ce débat, à reconnaître deux faits. Le premier fait, c'est notre fragilité à tous, fragilité à la fois physique et psychique. Et le deuxième fait, vraisemblablement, c'est quand même celui de l'importance du travail dans nos vies, dans les sociétés occidentales développées. C'est quand même notre activité principale, en tout cas celle qui est la plus investie de ce qui compte, encore une fois, pour nous. Ce qui compte, hein, pour des êtres à la fois complexes et vulnérables que nous sommes, en fait, ce n'est pas si clair. Je voudrais quand même aussi insister en propos liminaire là-dessus. Nous passons, nos passions nous débordent et nous échappent. Nous ne savons pas ce que nous faisons, nous ne savons pas très bien non plus ce que nous disons. Nous sommes menés par notre désir inconscient et inaccessible, pour reprendre l'expression de Jean Houry, pour le meilleur. Et pour le pire. Alors évidemment, du coup, vous imaginez bien que le rapport entre suicide et travail, qui tisse à la fois la fragilité, l'histoire individuelle et cette centralité du travail dans nos vies, eh bien ce rapport, il est complexe. Il ne se laisse pas bien organiser dans les rhétoriques justement militantes, qui est quand même une vraie difficulté. Et cette complexité souvent se perd, hein, à la fois dans la médiatisation, hein, comme dans les discours de propagande. Et donc, je me suis dit que la façon la plus simple, finalement, de m'écarter de tout ça, c'était de partir d'une enquête, c'est-à-dire de faire mon travail, un petit peu comme Laurence Théry l'a proposé, et donc de partir d'une situation concrète. Alors évidemment, le problème, toujours dans ces cas-là, c'est un problème de temps, hein, parce qu'il faut quand même de toute façon installer un petit peu le décor. Donc je vais être vigilante, et puis j'irai jusque là où nous permettra le temps d'aller, mais ça je pense que avec tout ce qui a déjà été apporté, de toute façon ça suffira pour lancer la discussion. Alors, un jeune cadre futur chef de son service, s'enferme dans son bureau pour mettre fin à ses jours avec des instruments du travail. Ce drame intervient à peu de distance de la série de suicides très médiatisés parmi les salariés de grandes entreprises françaises. Et donc, la question du statut du travail dans ce geste désespéré est immédiatement posée par certains membres du service. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne dirai jamais où c'est et ce qu'ils font, parce que par différence avec l'histoire qui a été racontée, là, il y a un mort avec une famille, des enfants, et que je tiens quand même à protéger un certain anonymat, ce qui est déjà une manière de vous dire à quel point une démarche telle que la mienne s'écarte des démarches de médiatisation. Donc voilà, donc... Dans ce contexte où le statut du travail est posé, l'encadrement accuse ces personnes de vouloir, entre guillemets, je cite, « instrumentaliser cette mort au profit de revendications portant sur les conditions de travail ». Et en même temps, se propage toute une série de rumeurs concernant la vie privée du défunt, ainsi que des accusations concernant des pratiques de dissimulation qui sont attribuées tant à l'encadrement de proximité qu'à la direction. Et en particulier, il est fait état de plusieurs lettres que cet homme aurait écrites, dont une adressée à ses collègues et dont ceux-ci n'auraient pas eu connaissance. Voilà un petit peu le contexte tel qu'il se présente quand, quelques semaines après ce décès, la direction fait appel à nous, donc chercheurs en psychodynamique du travail, spécialisés dans le champ de la santé mentale au travail, pour répondre à une demande qui est exprimée par les équipes, qui est de les aider à s'extraire d'un état de sidération qui fait dire aux membres le plus haut placé de l'encadrement « Depuis, tout continue, mais c'est comme si tout s'était arrêté ». Alors cette personne, elle déplore avec beaucoup de virulence les rumeurs qui, disent-elles, salissent la mémoire du mort. La rumeur s'entend ici vraiment comme une infamie qui briserait la réputation du jeune homme, en révélerait des failles qui auraient dû rester du domaine privé, en même temps qu'elle opérerait comme une espèce d'outil de manipulation en distillant la fameuse thèse du travail qui tue. Donc tout le monde est quand même très très agité et tout le monde s'invective. Ils sont peut-être sidérés, mais pas pour ce qui est de se renvoyer la balle dans le registre des invectives. Donc, dans la phase de préparation de notre intervention, la première chose qu'on fait, c'est on commence par calmer les esprits. On leur dit, on ne va pas chercher à prouver que le travail a causé le suicide de ce jeune homme, puisqu'on n'a pas accès à sa parole. On a quelque chose de ce qui s'est passé nous échappe là et pour toujours. Ce qu'on va essayer de chercher à comprendre, c'est quelles sont les incidences de cette mort tragique sur les autres membres des équipes et sur leur vécu de travail. Alors, je passe très rapidement sur la méthodologie, on pourra y revenir. Les membres des équipes ont tous été volontaires, donc ça a été assez compliqué. Il a fallu arrêter le service pendant deux journées pour pouvoir faire ce travail avec eux. Donc on s'est réunis deux fois trois heures avec un groupe de ce que j'appellerais des assistants techniques qui étaient les subordonnés directs de ce cadre, et puis un autre groupe de ce que j'appellerais des techniciennes, c'était essentiellement des femmes qui travaillaient quotidiennement avec lui mais n'étaient pas ses subordonnées. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'aucun cadre, c'est-à-dire aucun collègue direct de ce jeune homme n'a souhaité participer à un troisième groupe qui avait été bien sûr proposé. Alors, ce qui a constitué bien sûr une limite du travail qui a pu être accompli, comme ça a été souligné dans le rapport final. Mais bon, dans ce type d'enquête, on ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas de demande. Et donc, il n'y avait pas de demande de la part des cadres. Voilà, on pourra y revenir dans la discussion. Pour l'instant, ce que je vais essayer de montrer, c'est que les rumeurs et les différentes accusations qui étaient portées par les uns contre les autres sont les manifestations bruyantes à travers lesquelles les collègues du jeune homme ont tout d'abord tenté de se protéger de la souffrance générée par sa mort tragique. En d'autres termes, ces distorsions de la communication, ces rumeurs, ces invectives, relevaient d'une fonctionnalité avant tout défensive. Et ce dont il s'agissait de ne pas parler, c'est ce que je voudrais essayer de montrer, et en écho à la présentation de Laurence Théry, c'était justement du détail, du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que des défenses ? Travailler implique souvent de se confronter à des risques qui peuvent toucher à sa propre intégrité ou à celle des autres. Dans la situation présente, les équipes exercent un travail dangereux dont les risques génèrent de la peur pour les subordonnés comme pour l'encadrement. Donc, la psychodynamique du travail a montré que la peur empêche de travailler si elle n'est pas contenue par des stratégies de défense, et que ces stratégies de défense sont plus efficaces, je passe très vite, quand elles sont collectives. Ces stratégies visent à réduire la perception du danger en opérant dans un registre symbolique. Le risque n'est pas transformé, il est collectivement impensé. Et évidemment, la meilleure manière, comme vous le savez bien, de ne pas penser, c'est encore de ne pas parler. Les stratégies de défense ont ainsi une incidence directe sur les formes de communication interpersonnelle, celles-ci s'organisant de manière à occulter ce qui fait souffrir dans le travail. Quand les difficultés s'accumulent sans qu'il y soit remédié, les défenses collectives se radicalisent. Des pans très importants de la réalité du travail ne sont plus discutés, au point qu'on peut parler de pathologie de la communication. C'est une expression qui a été proposée par Christophe Dejour. Chacun est alors seul avec sa connaissance du réel, qu'il ne peut plus mettre en partage avec autrui. On parle aussi de pathologie de l'isolement. Tandis que la communication, qui demeure, s'organise autour de l'évitement ou du déni du travail. Dans notre enquête, la circulation de la rumeur répond tout à fait à ce type de fonctionnalité défensive, encore une fois. Il s'agit de socialiser le drame, tout en parlant d'autre chose que des risques du travail. Alors, on va parler de la vie personnelle, alors on va parler des syndicats qui sont des salauds, de la direction qui est dégueulasse. Enfin, on va se débrouiller pour se parler, pour communiquer, mais sans aborder la question du travail. Alors, dans ce service, les assistants techniques, qui étaient en majorité des hommes, avaient développé ce qu'on appelle des stratégies de défense virile, qui sont des stratégies qui consistent à dénier, occulter sa propre vulnérabilité, et donc avec un côté combatif et agressif qui est valorisé. Tous les participants de notre enquête s'accordaient à décrire les relations entre assistants techniques et encadrants comme, disent-ils, un bras de force épuisant. Armure virile qui était encore renforcée par l'activisme. Donc, c'est un service où, comme on l'a déjà décrit, la charge de travail va croissante, mais sous prétexte de ne pas pouvoir faire autrement, on fonce et on évite ainsi de mettre en discussion les aléas, les moments de peur ou d'incertitude. Si vous voulez, on se sert de l'intensification du travail pour justifier le fait qu'on va en faire encore plus et que dans ce encore plus, on n'a plus aucun moment pour se réunir, pour discuter, pour passer du temps ensemble. Et donc, je peux vous dire que la mise à disposition de 6 heures de discussion pour notre enquête, qui était énorme, 2 fois 3 heures par groupe, a constitué une rupture notable avec le mode de fonctionnement habituel des équipes. Voilà. Alors, donc c'était comme ça, dans cette tendance globale à la fuite en avant, mais cette tendance montrait déjà quelques signes de rupture avant le décès du jeune cadre. C'est du moins ce que suggèrent les propos de certains assistants techniques, qui nous disent qu'ils espéraient donc de leur futur chef, puisque c'était leur futur chef, qu'ils résoudraient un certain nombre de dysfonctionnements dont l'actuel encadrement ne voulait pas entendre parler. Et donc, certains disaient, on lui a montré tout ce qui ne marche pas, on a dû lui faire peur. Et donc, on lui a montré tout ce qui ne marche pas, clandestinement, en le prenant par la manche, en lui disant, viens voir, viens voir. Alors, précisément, hein, quand même, le premier constat de notre enquête, ça a été l'envahissement de la vie psychique des participants par une peur qui ne pouvait plus être écartée, hein, puisque les défenses ne fonctionnaient plus du fait de cette effraction, hein, du drame de ce suicide, hein, et qui en même temps ne pouvait pas non plus... Alors, les gens ne pouvaient plus écarter la peur, mais ils ne pouvaient plus non plus la partager spontanément. Dans la première séance du groupe donc des assistants techniques, la peur s'est d'abord exprimée sous une forme particulièrement angoissante, qui était celle du fantôme du mort. Plusieurs personnes ont cru l'apercevoir au bout d'un couloir, au fond d'un local retiré ou désert. J'ai eu peur, j'ai fait demi-tour. Certains se sont sentis poursuivis par lui, ou l'ont vu apparaître dans leur chambre à leur réveil. J'ai vu sa tête dans une bulle. D'autres encore, au moment de réaliser certains gestes professionnels, ont été pétrifiés par la pensée qu'il avait fait ce geste pour se tuer, le même geste. Toutes ces apparitions avaient un sens lié à la peur générée par l'activité, alors comme travailler seul dans des lieux isolés et ou réaliser des gestes dangereux. Alors, la possibilité d'oser livrer ces pensées, alors ce qu'ils ont appelé des pensées irrationnelles, de découvrir que d'autres... Alors, c'est des gros bras, hein, attention, hein, donc c'est pas facile de dire, hein, j'ai vu sa tête dans une bulle, hein, c'est pas simple. Hein, de découvrir que d'autres avaient vécu des expériences similaires a été un temps initial très fort où chacun a pu prendre la mesure donc, de sa propre vulnérabilité et de celle des autres. Les participants ont aussi fait l'expérience, hein, que l'impact psychologique de ce drame ne se laissait pas dissocier de leur expérience ordinaire du travail et des gestes ordinaires du travail. Cet événement tragique rendait cette expérience ordinaire du travail insupportable et chacun ne reprendrait le cours normal des choses qu'à la condition de mettre à plat les problèmes posés par l'activité. Mais pour ça, il fallait déjà faire, je dirais, un petit peu un sort à la rumeur. Et des rumeurs, en effet, il en circulait beaucoup. Il se chuchotait qu'il existait, par exemple, des antécédents de suicide et de bizarrerie chez les ascendants, hein, père, oncle, etc., du défunt. On parlait d'une dispute avec sa femme. On parlait de gros problèmes d'argent. Certaines personnes ne pouvaient s'empêcher d'exprimer aussi leur colère, hein, contre ce père de famille auquel ils ne pardonnaient pas d'abandonner plusieurs enfants. D'autres avaient ouï dire qu'ils souhaitaient démissionner et en fait avaient pris contact avec l'entreprise concurrente. Il y avait aussi des bruits qui concernaient l'attitude de l'encadrement. Hein, des assistants techniques, par exemple, s'insurgeaient avec une angoisse palpable contre le fait que les lettres retrouvées dans le bureau auraient été confisquées par la direction et qu'ils en ignoraient le contenu. On a tourné la page un peu vite, comme si rien ne s'était passé, diront les participants, se plaignant, hein, de n'avoir pas eu le droit d'en parler. Donc vous voyez quand même que dans tout ça, hein, la faute, c'est quand même les autres. Hein. Il y a quand même une espèce de tendance comme ça à dire « on n'a pas pu en parler, on nous a caché la vérité », il y a une espèce de honte localisée plutôt au niveau de la direction, qui est persécutant. Hein. Or, la suite de la discussion a fait apparaître que sentiment d'un interdit de dire, d'abord, encore une fois, attribué à l'encadrement de façon univoque, recouvrait aussi de la part des équipes des sentiments de culpabilité et de colère. Alors, que signifiait, par exemple, l'insistance de certains à vouloir voir à tout prix les lettres de leurs propres yeux ? Nous avons fini par comprendre, hein, en recoupant leurs propos avec ceux de la direction, qu'en réalité, le contenu de ces lettres, hein, était absolument connu de tous. D'abord, il n'y avait pas plusieurs lettres, mais une seule. Et en fait, le jeune homme s'y accusait de son incompétence personnelle et professionnelle. Donc, je reviendrai là-dessus. Cette lettre n'était pas dans les mains de la direction, mais dans celle de son épouse. Et si les assistants techniques n'arrivaient pas à croire ce qu'il savait pourtant, c'est qu'il redoutait qu'il y eût néanmoins autre chose qu'on leur eût caché. Et ce qu'on leur aurait caché, c'était des accusations, hein, que le mort aurait pu porter contre eux. C'était ça, le fond de leur angoisse. Plusieurs d'entre eux s'étaient en effet affrontés durement avec le jeune cadre. 48 heures avant sa mort, je me suis accrochée avec lui. Je me suis sentie un peu fossoyeur, dira l'un d'eux. Ce sentiment de culpabilité, hein, de l'avoir souvent contredit de façon peu courtoise, d'être passé outre ses ordres ou d'avoir refusé de coopérer quand ce qui leur était demandé ne leur paraissait pas conforme du point de vue de la sécurité, étaient demeurées indicibles, tout comme la persistance de leur ressentiment et de leur colère contre le jeune homme. La mort de celui-ci n'avait pas soldé le conflit. Les accusations de dissimulation de la part de la direction masquaient ainsi une angoisse, encore une fois, celle d'y être pour quelque chose, et une agressivité non tarie contre quelqu'un dont il était cependant devenu très délicat de parler en mal. Alors, rien n'est a priori irrécevable, indécent ou hors de propos quand il s'agit de comprendre ce qui fait souffrir les gens et comment ils s'en défendent. Nous avons donc toléré dans le dispositif d'enquête l'expression virulente des désaccords portant sur le travail avec le jeune cadre. Nous avons toléré de la même manière que nous avons toléré les histoires de fantômes ou tout ce qui se présente. Voilà. Rapidement, les assistants techniques en sont arrivés à l'idée que ces désaccords ne concernaient pas seulement leur relation avec le défunt, mais qu'ils existaient aussi entre eux, bien qu'ils ne les mettent plus en débat. La rigidification croissante des procédures les rendait la plupart du temps inapplicables, contraignant chacun à des formes de contournement qui auraient pu exposer à des sanctions, mais sans lesquelles il était impossible de travailler. Le travail réel était pour cette raison en passe de devenir clandestin, ce qui majorait la peur puisque chacun travaillait sans dire ce qu'il faisait réellement, ni sans savoir ce que faisaient les autres. La discussion s'est alors organisée autour d'une tension entre d'un côté le respect des procédures comme nécessaire et protectrice, ce qui était la position du jeune cadre, et de l'autre l'expérience que le travail réel nécessite de constants ajustements et de la souplesse. Montrer au jeune cadre ce qui ne marchait pas avait donc été une tentative pour essayer de le déplacer de sa posture prescriptive. Mais celui-ci était-il en mesure de trouver des appuis du côté de ses collègues pour assumer la connaissance du travail réel? Je dirais qu'on peut juste dire que l'absence des cadres dans l'enquête suggère que ce n'était pas évident. On ne peut pas aller tellement plus loin. Alors, s'agit-il de souffrance, de fragilité structurelle ou de souffrance au travail, pour revenir sur le fameux débat, on notera que dans sa lettre, le jeune cadre s'accuse d'une incompétence personnelle et professionnelle, c'est-à-dire que lui, il met sur le même plan le personnel et le professionnel. Alors que le débat public sur les suicides liés au travail se polarise aujourd'hui autour de deux thèses adverses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une reversant toute causalité au registre d'une fragilité personnelle, l'autre au registre d'une organisation du travail pathogène. Or, nous savons, quand on est psychologue, ce qui est mon cas, de longue date, que cette intrication malheureuse entre les deux sphères, entre la sphère personnelle et professionnelle, elle est de règle, depuis les sœurs Papin, encore une fois, elle est de règle dans les décompensations psychopathologiques. C'est que aujourd'hui, on ne pourrait plus dire, on ne pourrait plus se disputer comme on s'est disputé à l'époque, pour savoir si c'était un crime de bonne ou un crime de folle. Et elles étaient folles et elles étaient bonnes. Et quand on analyse, on trouve autant d'arguments du côté de la folie que du côté de la condition de bonne à tout faire. Donc voilà. Alors, vous voyez que dans cette enquête, il y a quelque chose qui a été possible, finalement, ça a été de reconnaître sa propre vulnérabilité. On voit des fantômes, on a peur. De reconnaître la vulnérabilité des autres et de construire ensemble une vision complexe de la réalité qui n'élude ni la centralité du travail, ni les différences entre les sujets. Donc, c'est possible dans cette enquête, ça a été possible dans l'histoire de la psychopathologie du travail. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi ça ne serait pas possible aujourd'hui. Alors, je regarde si j'ai 5 minutes. 10. Donc, je vais quand même vous lire, alors, du coup, un tout petit extrait d'un texte de Claude Veil, qui est un des précurseurs de la psychopathologie du travail, qui s'appelle « Phénoménologie du travail », le texte, dans lequel il présente le cas Paul, qui est un cas que j'aime beaucoup. Et puis après, je conclurai. Il dit « Ce bel homme de 28 ans vient confier son inquiétude, car depuis quelques semaines, il est obsédé par l'idée de tuer sa femme. C'est au retour de vacances et il avoue avoir nourri une flamme platonique pour une jeune fille rencontrée à l'hôtel. C'est aussi un polisseur en automobile qui gagne 88 000 francs par mois et force la cadence pour s'acheter une à-ronde. Il reçoit 3 prescriptions vitamines, neuroleptiques, travaillez moins. 2 mois après, nous le revoyons, guéri et nanti d'une simple 4 chevaux d'occasion. Donc, le travail joue un rôle dans la décompensation de Paul et par exception, ce rôle est reconnu dans son intrication avec la problématique amoureuse. Vous voyez, ce n'est pas dissocié hein, par le psychiatre. Là, hein. Tous les polisseurs en état de surcharge ne sont pas obsédés par l'idée de tuer leur femme et on comprend donc que le psychiatre n'ait pas jugé les neuroleptiques superflus. Mais le cas de Paul ouvre cependant une critique sur une critique décadence d'un point de vue psychopathologique, hein, travailler moins quand même, on lui dit, hein, ne pas trop forcer sur la cadence. Et comme le souligne Claude Veil, hein, l'étiologie de la décompensation est mixte. Alors si l'on s'accorde avec la thèse de la centralité du travail dans le fonctionnement psychique, alors ainsi que le souligne Philippe Davzy, suite à un suicide, il est au minimum légitime de s'interroger sur le fait que l'activité professionnelle et les relations de travail n'ont pas rempli leur fonction de protection de la santé, ce qui est malheureusement le cas dans la situation que je viens d'évoquer. Hein. Est-ce que si on veut vraiment discuter. Vous voyez, donc du coup, il y a une fragilité structurelle. Peut-être les rumeurs concernant les antécédents de suicide dans la famille, la mésentente avec l'épouse et les problèmes d'argent n'ont pas du tout été confirmées. Mais ça n'a aucune importance, puisque dans l'enquête proprement dite, ça n'a pas du tout le fait qu'il y ait une fragilité structurelle présumée, n'a pas du tout empêché les gens de s'identifier avec ce qui était arrivé à cette personne. Et alors, ce qui était très troublant pour nous, par exemple, c'était la manière dont les gens ont interprété le fait qu'il était venu se tuer sur son lieu de travail. Pour les gens qui souffraient beaucoup au travail, c'était interprété comme un signe. C'était bien la preuve que c'était pas à cause du travail, puisqu'il était venu le faire sur son lieu de travail. Et c'était ceux qui tenaient cette position étaient ceux qui déclaraient avoir rencontré eux-mêmes beaucoup de difficultés dans le travail et donc s'identifiaient très fortement en disant ça pourrait m'arriver, etc. Mais il y avait d'autres gens qui étaient sur une position complètement différente et qui était assez surprenante et intéressante à entendre, qui disaient mais non, s'il avait voulu ne pas se rater, il serait allé mettre fin à ses jours dans la forêt voisine, hein, puisqu'il se trouve qu'il y a une grande forêt juste à côté. Et donc, il dit, s'il est venu le faire dans un lieu peuplé, c'est qu'il voulait qu'on l'empêche. Et donc, eux, ce qui les tourmentait terriblement, c'est de ne s'être rendu compte de rien. C'est de n'avoir pas été suffisamment attentif, de ne pas, dans cette espèce de course hein, forcenée, etc., où tout le monde lui disait, mais c'est terrible, à l'heure où lui était en train de se tuer dans son bureau, nous, on était en train de courir dans tous les sens, juste à côté. Voilà. Donc il y avait vraiment deux positions qui étaient très différentes. Une position d'identification et puis une position plus empathique qui consiste, enfin, sur une modalité d'empathie différente en tout cas, qui consistait à dire on n'a rien vu, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on arrête de ne pas voir. Quoi. Voilà. Dernier point, peut-être vous avez lu dans la littérature hein, sur... sur le suicide lié au travail, hein, que certains auteurs privilégient à la thèse de la fragilité structurelle, hein, celle d'une forme particulière d'engagement dans le travail. Hein. Par exemple, Christophe Dujour dit « Ceux qui se suicident au travail se recrutent parmi les hommes et les femmes qui sont les plus engagés dans le travail, parmi les meilleurs. » Alors, oui, il y a un effet de rhétorique qui est assez séduisant, mais ça pose quand même une difficulté. C'est-à-dire, qui décide de qui sont les meilleurs ? Et voilà, et on revient sur les homimosas. Je suis désolée, mais c'est vraiment l'exemple parfait d'un perfectionnisme qui n'est pas forcément perçu. Quoi. Elle est vraiment la meilleure pour faire les homimosas, mais qui s'en aperçoit et comment on construit la conception de ce que c'est qu'être le meilleur. Hein, dans une logique d'excellence, être le meilleur, ben, ça implique souvent de bafouer quelques valeurs au passage, d'en rabattre sur la qualité, de le tenir secret, de saboter les installations des concurrents, de falsifier les résultats, de faire de fausses promesses sur les délais de livraison, de réduire les tests avant de mettre un médicament sur le marché. Voilà. Dans l'enquête en question, hein, quand on demandait, quand les gens décrivaient ce jeune cadre, ils l'ont tous décrit comme brillant, mais certains jugent son savoir livresque, son rapport à la prescription rigide, quand d'autres pensent qu'il agissait avec une rigueur protectrice contre certaines dérives. Certains le décrivent peu ouvert au dialogue, clôturant les discussions de son autorité hiérarchique. D'autres pensent exactement le contraire. Certains l'estiment sûr de lui, d'autres lui attribuent un sentiment d'insécurité qu'il partage ou qu'il craigne, hein, comme je vous l'ai déjà dit, de lui avoir fait partager. Ce portrait à facettes multiples, hein, montre bien que le jugement sur le travail, sa qualité, le degré d'engagement qu'il implique est très très variable en fonction des points de vue. Voilà. Ce qui déplace, hein, la question, et là je vais reboucler pour conclure sur ce que disait Laurence Théry, ce qui déplace la question à la fois du côté des conditions collectives, hein, qui autorisent la discussion, la mise en visibilité, la discussion sur le travail réel, hein, le travail tel qu'il est fait, et donc interroge aussi, reboucle finalement sur les pathologies de l'isolement analysé par Christophe Dejour, hein, dans cette situation, hein, enfin, on a un encadrement qui est malgré tout extrêmement isolé. Voilà, j'aurais encore plein de trucs à dire, mais je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter.
Il y a sans doute énormément de questions sur justement c'est la différence entre les pratiques très fréquentes des entreprises. D'ailleurs, en tant que directrice de la RAC, vous devez en avoir un échantillon, c'est-à-dire des entreprises qui sont tentées par exemple, des diagnostics collectifs, parce que c'est faire quelque chose, etc. Et puis l'intérêt d'aller justement beaucoup plus précisément dans les situations de travail. Je vous propose donc de vous passer la parole pour que vous puissiez réagir à ces deux interventions, puisque voilà, donc nous avons vraiment beaucoup d'intérêt à avoir écouté cela.
Il faut que les gens se lèvent quand ils parlent, parce qu'on les voit pas. Enfin, sauf s'ils sont très devant.
Oui, voilà, si vous pouviez vous présenter, vous lever juste pour qu'on vous voit, parce que nous, c'est vrai qu'on a une vision.
Oui, bonsoir. Je suis un simple. Je suis venu écouter ce qui se disait. Mais j'ai un intérêt par rapport à ce qui s'est dit sur les œufs mimosa. Parce que les œufs mimosa, j'ai une formation en agroalimentaire, et j'aurais bien voulu rapporter ces œufs mimosa, je crois que ça se passait dans une collectivité, éventuellement un marché public, la possibilité de l'externaliser, de donner ce travail à un grand groupe de la distribution de l'agroalimentaire, qui aurait réglé le problème, puisqu'on aurait fermé ce qui se faisait dans cette collectivité, et on aurait mis tout ce travail à disposition d'un grand groupe de l'agroalimentaire, sans les citer, ils sont connus, hein, ils exercent dans le domaine de l'eau, dans l'agroalimentaire, éventuellement dans les médias. Donc cette dame qui avait un intérêt pour son travail et qui se posait des questions sur la façon dont elle aurait pu mieux faire, oui, elle aurait pu mieux faire, mais au travers de son intervention, il y avait d'autres considérations qui étaient éventuellement des considérations financières, le coût de la ration, le budget de la collectivité et la possibilité pour le responsable de cette collectivité de gérer au mieux son budget. Alors, pour ce qui est du budget, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit détour, puisqu'on a parlé des entreprises du secteur concurrentiel, par rapport à l'État aujourd'hui. La revue générale des politiques publiques, c'est sympathique. Un fonctionnaire sur deux, sur trois qui n'est pas remplacé. On peut se poser la question, un fonctionnaire sur deux ou trois non remplacés, c'est bien le travail de ces deux ou trois qui va être fait par ceux qui restent. Donc au final, il va falloir intensifier le travail. On intensifie le travail au travers de considérations tels que l'INT, qui vient, si je ne m'abuse, de Toyota. Et on arrive au final à se dire que par rapport au concept de Taylor ou Fayol, on est à peu près dans la même logique et qu'il faut travailler plus. Et puis on constate quand même qu'il y a des gens qui se suicident. Ils sont peut-être fragiles, mais ils mettent fin à leur jour. Et au final, on se retrouve dans une situation telle qu'à France Télécom, où aujourd'hui, les familles sont en train de se trouver, au travers d'un dilemme, obtenir le prix de la mort au travers d'un futur arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui donnera le prix de ce malheur à ces familles qui n'ont plus leur époux, pour contribuer à mettre tous les jours dans le budget de la famille de quoi vivre. Et un autre élément que j'aimerais souligner, c'est aussi le transfert de nos activités économiques dans le contexte de la mondialisation. Et on est peut-être un peu responsable lorsqu'on va dans une grande surface acheter des produits pas chers, et puis quand on regarde l'étiquette que l'on a sur son pull et qu'on voit « Made in China », on peut aussi se poser la question dans quelles conditions ces pulls sont fabriqués et quelles sont les conditions des jeunes enfants qui travaillent en Chine aujourd'hui. Pour ce qui est du suicide, le suicide, ça arrive assez facilement. Je ne citerai pas l'entreprise concernée, puisque ça remonte un certain nombre d'années, mais quand vous avez dans le bureau d'à côté quelqu'un qui met fin à ses jours avec un pistolet et qui ne se rate pas, ça fait quand même du sang sur les murs. Ce n'est pas très sympathique. Et puis on y pense quand même un certain nombre d'années après. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que le contexte dans lequel on vit est très difficile. J'aurais pu introduire mon propos en mettant les salariés dans une arène avec des lions. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de travailler. Et on peut mettre des lions et de la viande. On diminue la viande dans l'arène. Et puis les salariés, ben, ce qui reste en moins, ben, il faut quand même qu'ils continuent à vivre et à manger. Et donc, au final, on se retrouve un peu comme Laborie, les souris de Laborie dans Mon oncle d'Amérique. Ben, c'est qu'il y a du stress et que la vie est de plus en plus difficile. Voilà, je voudrais en terminer. Et merci pour votre intervention.
Bien, merci de ces remarques. Une autre question ? Derrière vous.
Bonjour, merci de vos interventions. En fait, j'ai une question pour la seconde intervention. Donc, si j'ai bien compris, vous défendez l'intrication entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans le développement de la vie psychique. Et j'aurais voulu savoir pourquoi, enfin, si toutefois c'est possible de répondre, je ne sais pas, pourquoi vous n'avez pas tenu compte, en fait, dans votre enquête auprès du suicide de ce jeune homme, de la famille, de l'enquêté. Alors peut-être que vous n'aviez pas pu le faire, mais dans ce cas-là, ça n'a pas été. Enfin, dans ce cas-là, je voulais savoir si c'est justifié. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps de l'expliquer. Voilà, parce que vous défendez donc les deux domaines et l'intrication des deux. Donc j'espère que j'ai été claire dans ma question.
Je vais répondre après. Ou je vous réponds tout de suite ? Oui, alors là, c'est tellement intriqué qu'il se trouve que sa femme travaillait dans la même entreprise. Et donc, elle savait qu'on était là, elle n'a pas souhaité nous voir et on n'a pas du tout insisté, bien évidemment. Et c'est tellement intriqué que ses enfants allaient dans la crèche de l'entreprise. Et là, on a vu le personnel de la crèche. Je n'en ai pas parlé parce que c'était assez périphérique. Mais on a aussi passé du temps avec le personnel de la crèche qui était quand même un petit peu... qui était quand même aussi un petit peu secoué, mais pas du tout dans les mêmes, évidemment, dans les mêmes proportions que les collègues directs. Alors oui, c'est vrai que je pense que quand on parle de la centralité du travail dans le fonctionnement psychique, les gens ont tendance à oublier que nous ne sommes pas que travail. Alors, si vous voulez, on est passé d'une situation où, en psychologie, et particulièrement en psychopathologie, et qui est quand même encore une situation assez dominante, il n'y avait pas du tout le travail. Les gens décompensés, elles travaillaient, étaient jamais pour quelque chose, ce qui est un vrai problème, à une situation alors localisée autour de cette thématique en particulier des suicides au travail, où il n'y a plus que le travail. Et donc, dans les deux cas, on ampute quand même la représentation des êtres humains de dimensions qui sont importantes. Ce sont des conceptions qui sont des conceptions réductionnistes. Alors, moi, je ne dis pas ce monsieur, il était fragile. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Hein. Je dis, nous sommes fragiles, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que cette fragilité, je nous l'attribue à tous. Hein. C'est une vulnérabilité qui est ce que nous sommes. Alors, soit on fait dans les entreprises, avec ces êtres humains-là, des êtres humains qui sont fragiles. Alors, il y en a, ça se termine mal par des suicides, et puis il y en a, ça se termine par des cancers, on ne fait pas forcément le lien, ou il y en a, ils font trop d'extrasystoles, ou... Voilà, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes modalités d'expression de nos fragilités au pluriel. Mais fragiles, on l'est tous. Et dans le contexte actuel, qui est un contexte marqué, comme on l'a dit, par la performance, par l'excellence, par des tas de notions qui sont à des années-lumière de l'idée de la vulnérabilité, eh bien, ce qu'il s'agit, je crois, avant tout de remettre au centre de nos préoccupations quand on parle de souffrance au travail, c'est ça, c'est la question de c'est quel modèle de l'être humain ? Est-ce que c'est l'homme de la performance, et c'est un homme en général, c'est une représentation virile, ou est-ce que c'est un être humain vulnérable ? Ce qui, pour le regarder en face, implique d'en rabattre sur un certain nombre de défenses, et c'est compliqué. C'est ça qu'on a discuté dans la société actuellement. C'est pas ça, moi, je veux dire, est-ce qu'on est des martyrs dans l'arène ? C'est pas ma façon de problématiser les choses. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on est un peu tous responsables de ce qui nous arrive et qu'on peut quand même essayer au moins d'en discuter avec le plus de justesse possible, par exemple, puisque ici c'est quand même un lieu lié à l'université, enfin à la recherche et à l'université, on pourrait tout à fait en parler par rapport au monde de l'université. L'université ne connaissait pas la souffrance au travail il y a une dizaine d'années, on est en plein dedans maintenant. Ça nous arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette chose qui nous arrive, nous aussi, on s'intensifie, on court dans tous les sens, on a des réunions purement opératoires et instrumentales où on ne se parle pas des choses importantes, enfin voilà, on est évalué, on se défend, on tombe tous malades, mais ça ne fait rien, on est quand même tous là. Voilà, je veux dire, on est tous pris dans ce bain-là. Donc quelle place on donne à la manière dont on y... dont on y participe, parce que je me méfie énormément des discours qui... Alors, c'est vrai, parce que c'est une tendance, et même moi, il y a des moments, j'ai envie, quoi, que ça soit la faute du capital, ou que ça soit la faute du néolibéralisme, ou que ça soit la faute des Chinois, ou tout, mais pas la mienne, quoi. Mais parce que si c'est ma responsabilité, je vois bien que c'est très compliqué, parce que je vois bien que ma marge de manœuvre, elle est très étroite, et que je sais pas si je suis comme la souris de la Laborie, mais enfin, quand même, je pédale beaucoup pour un résultat assez faible, donc je risque de me déprimer. Mais si on est tous d'accord pour en parler ensemble, c'est déjà beaucoup moins déprimant. Voilà. Je pense que le rapport avec le réel de l'activité et tout ce que vous avez dit tous les deux, des limites auxquelles on est confronté tout le temps, si on est tout seul, c'est horriblement déprimant. Et que donc, qu'il y ait des suicides, effectivement, c'est pas forcément étonnant. Et c'est pour ça que je pense que quand même, cette idée de pathologie de l'isolement, elle est très puissante. Mais si on commence à en discuter, de nos vulnérabilités, de nos fragilités, de nos impuissances et de nos difficultés, c'est plus tout à fait la même chose. Et on n'est plus dans une position de victime, mais déjà plus dans une position pour essayer de reconstruire quelque chose de collectif, d'ensemble. On est très loin de ça en France en ce moment, je sais bien, mais ça, c'est que des choses à peine, dire des choses comme ça dans l'état de déconfiture dans lequel on est. Mais bon.
Vous avez une autre question ?
Alors, moi, j'avais juste une petite remarque, en fait, concernant votre étude sur le fait que les cadres et les collègues n'ont pas participé. Est-ce qu'ils ont été suivi en individuel? Est-ce que vous, on n'a pas su la suite parce que quelque part il se retrouve aussi seul face à, ou est-ce, ben, est-ce, enfin, je sais pas, ça me perturbe en fait qu'il n'y ait pas eu de.
Et ça nous a beaucoup perturbés aussi, hein, évidemment. En fait, ça s'explique assez bien hein, par le fait qu'il y a eu des pressions très fortes. Il y avait des rapports très compliqués avec l'entreprise concurrentielle que je ne peux pas développer parce que là, je vais être obligée de dire ce que c'est comme type d'activité. Et c'est concurrence entre privé et public, donc ça va être encore plus compliqué. Mais il y avait des secrets de Polichinelle, c'est-à-dire des choses que tout le monde sait, mais qu'il ne faut pas dire publiquement, parce que si on les dit publiquement, il faudra prendre des sanctions, il faudra virer des gens, il faudra licencier, enfin mettre à la porte un certain nombre de cadres, et il n'y en a pas assez dans la région. Donc nous, on a su assez vite par la direction d'établissement que ces secrets de Polichinelle, il ne fallait pas qu'on en... Voilà. Non, mais pour dire que les situations... Voilà, c'est ça qui n'est pas binaire. Hein, c'est quand on commence à rentrer... Ben, par exemple, il n'y a plus le public et le privé. C'est les mêmes qui travaillent, mais d'une façon plus ou moins clandestine d'un côté, parce que quand on est dans le public, on n'a pas le droit d'être en même temps dans le privé, mais ils y sont quand même. Tout le monde sait qu'ils y sont. Tout le monde sait que les horaires qu'ils font dans le public sont organisés sur la possibilité de faire des heures en plus ailleurs. Ben, tout le monde sait toutes ces choses-là, mais il ne faut pas que ça se dise, parce que si on le dit, il n'y a plus un spécialiste dans la région, quoi. On est obligé de les... En tout cas, dans le public.
Il y avait une suite dans la question, j'ai vu, non ? Oui ?
Merci. C'était par rapport, à l'interprétation par le groupe au sujet de la forêt, s'il l'avait fait, on n'a rien vu. Vous parlez d'un phénomène empathique. Enfin, ouais. Il n'y a pas une certaine part de culpabilité aussi, oui. Quand on connaît la probabilité de tentative de suicide avec qui se termine par mort. Enfin, le taux létal est très important chez les hommes. Donc, enfin, tout ça, vous le renvoyez au groupe ou c'est juste un groupe de travail?
Alors, il y avait des réactions très différentes, hein, je vous l'ai dit, et ça aussi, ça fait partie de la complexité des situations. Il y avait des gens qui calculaient, parce qu'il y avait des gens avec une formation scientifique technique, on va dire, hein, qui se défendaient comme ils pouvaient en calculant combien de temps il aurait fallu, encore une fois, pour ne pas trahir l'anonymat, imaginez des calculs sur la résistance des matériaux et vous aurez à peu près le type de calcul qu'ils faisaient pour... C'est des blagues qui étaient très très mal vues par d'autres membres de l'équipe, en particulier par les techniciennes dont j'ai très peu parlé, qui étaient des femmes en majorité, qui apportaient un appui technique aux autres et dont le travail consiste à être attentif. C'est-à-dire que pour que les choses marchent, elles doivent être en permanence attentives à tout le monde. Et elles, par exemple, elles avaient tout à fait repéré hein, qu'il n'était pas bien dans les jours qui ont précédé son suicide. Elles l'avaient trouvé bizarre quand même. Hein. Mais c'était les seuls qui avaient repéré quelque chose. Et c'était dans ce groupe-là que les gens disaient on est passé à côté, on aurait peut-être pu faire quelque chose. C'était un appel à l'aide, etc. Alors que, et donc, ce n'était pas la même culpabilité, vous voyez. C'était une culpabilité de n'avoir pas vu. Alors que les autres, c'était la culpabilité d'avoir causé par leurs actions. Ce qui était très... C'était des formes de culpabilité très différentes. Mais là où vous avez raison, c'est qu'après un suicide lié au travail, et surtout quand ça a lieu sur le lieu de travail, il y a une culpabilité intense de la part des autres. Sous ces deux formes-là, hein. On le retrouve, puisque j'ai rédigé ce texte et d'autres collègues ont fait après, par la suite des enquêtes dans des situations similaires, et tout le monde est d'accord sur le fait qu'on retrouve ces deux tendances-là. Hein. La tendance, je l'ai embêté, je suis responsable de sa mort, et la tendance, je suis coupable parce que je n'ai rien vu.
Dans votre récit, sauf erreur de ma part, il me semble qu'il y a un absent qui est la direction. À part le fait qu'elle vous ait sollicité pour intervenir. Donc je voulais savoir un petit peu si elle était absente parce qu'elle se désintéressait, parce qu'elle, je ne sais pas ce qu'on peut interpréter. Et puis je prolonge la question, cette fois en direction de Laurence Théry, par votre position de directrice de l'ARACT Picardie, est-ce qu'il y a une... une prise de conscience dans les entreprises qui vous sollicitent sur ces questions de souffrance au travail, y compris quand ça met en cause les organisations.
Oui, il y a une prise de conscience, mais les entreprises qui ont recours à la RACT, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est des entreprises qui acceptent déjà nos conditions d'intervention, qui sont le fait que, qui sont d'abord d'aller regarder le travail, y compris l'organisation, et selon une démarche qui engage la direction et les représentants du personnel et les salariés. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des demandes d'entreprises qui s'arrêtent parce que la direction nous sollicite et ne nous laisse pas aller voir les organisations syndicales. Là, il ne se passe rien. Mais les entreprises dans lesquelles on intervient, c'est celles qui ont accepté ces conditions de départ. Ce qui ne veut pas dire que tout au long de l'intervention, ce n'est pas compliqué de maintenir et de défendre ces conditions d'intervention. Donc, les entreprises qui sollicitent la RACT, si je puis dire, c'est d'une certaine façon une vilaine expression, mais le haut du panier, si je puis dire, en matière. C'est des entreprises qui déjà ont une antériorité de réflexion et de pratique sur la question de la santé au travail. Alors évidemment, il y a une petite part qui sollicite la RACT pour échapper à l'expertise CHSCT. Mais ça, c'est tout à fait. Enfin voilà, une fois qu'on a rencontré les organisations syndicales, elles nous disent bon, allez. Et puis voilà. Là, ça,
oui, donc sur toutes les directions d'établissement ou d'entreprise ne sont pas forcément diaboliques. Et il se trouve que ce type était jeune et nouvellement arrivé et qu'il avait peur. Il avait peur parce que ces personnes dont je vous parle font un métier dangereux avec des risques pour les autres. Donc il avait peur de les laisser dans cet état-là, que ça tourne mal pour les usagers, on va dire, du truc. Et puis il avait peur d'avoir d'autres suicides. Donc il a été très aidant dans la démarche. Et c'est rare, c'est pas fréquent. Je pense que c'est possible aussi parce que c'était en région, un établissement qui n'est pas immense, très familial, comme vous l'avez vu, où tout le monde se connaît, et où ça a facilité. Lui-même faisait du sport avec le défunt, il le connaissait bien.
Alors, juste une seconde, parce que sur les deux interventions, là, vous intervenez en amont parfois des risques, le plus souvent, j'allais dire, puisqu'il y a des entreprises qui se mobilisent, j'allais dire, sur cette question-là, sachant qu'à la base, dans toute entreprise, à l'obligation réglementaire et légale de procéder à l'évaluation de ces risques, notamment psychosociaux. Et donc, effectivement, vous avez une intervention en amont, et vous avez eu, pour le coup, là, une intervention en aval, sous la pression d'un événement dramatique, avez-vous déjà été amené à intervenir justement en amont dans des entreprises qui allaient mal, mais avec d'autres indicateurs qu'un suicide, j'allais dire, parce que pour le coup, c'est un indicateur extrêmement dramatique, mais...
Oui, parce que les formes de souffrance au travail ne s'expriment pas toujours de cette manière-là. Elles s'expriment une fois de manière très bizarre. On est intervenu, je me rappelle, une fois dans un secteur d'EDF parce que les syndicats connaissaient nos travaux, avaient lu d'autres enquêtes qui avaient eu lieu également. Bon, c'est la distribution EDF de l'époque, donc il y a prescription, l'entreprise n'existe plus. Je ne dirais pas dans quelle région. Et le sentiment qu'ils avaient, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'était infrapathologique. C'était une intuition. Il y avait quelque chose. Il trouvait les gens apathiques. Il les trouvait trop dociles. Il disait, c'était joli. Et donc, comme ils étaient dans une région qui avait connu pas mal d'envahisseurs successifs, il disait, oh mais c'est normal, nous ici on a la mentalité casque à pointe. Alors ça, c'est une défense. Parce qu'évidemment, il les trouvait dociles, mais il disait, en fait, quand on grattait un peu, c'est pas, ils n'avaient pas toujours été dociles, c'était pas un atavisme, hein, ils étaient devenus dociles. Voilà. Donc là, il y avait vraiment, c'est une des enquêtes que j'ai fait, elle était passionnante d'ailleurs, où on a fait confiance à leur intuition. J'en ai fait une dans la maintenance de bus, c'était pareil. Le type, il avait fait un arrosage pour remercier ses équipes d'avoir fait un travail exceptionnel pour quelque chose de très d'un événement, et les gens ont boudé l'arrosage. Et ben, il s'est dit, ça va pas. Il y a quelque chose, je les reconnais, je fais tout bien comme dans le bon guide du management et ça marche pas, donc il y a quelque chose. Voilà, c'est les demandes sont extrêmement diverses. Hein.
C'est la convivialité qui prend pas.
La reconnaissance surtout. Lui, son idée, c'était, on m'a dit qu'il fallait reconnaître. Donc, il était allé négocier au siège. C'était à la RATP. Il était allé négocier des primes et des tas de trucs qui s'étaient donné du mal pour eux. Et ils sont pas venus. Ils ont boudé. Alors, évidemment, maintenant, si je vous dis ce pourquoi ils étaient reconnus, c'était la remise en état de bus qui étaient des bus donc qui n'allaient plus utiliser eux et qui partaient donc dans d'autres antennes. Et les bus qu'on leur livrait à la place de ces vieux bus, c'était des bus qui ne se réparent plus. C'est des bus où on ne répare plus, il n'y a plus de travail de mécanique. Quand c'est cassé, on change la pièce. Et pour eux, c'était un désastre, quoi, parce qu'à la fois, ils étaient, comme c'est des gens qui aiment la mécanique, ils avaient une admiration pour ce nouveau matériel. Ils disaient, mais c'est formidable, il y a des cylindres là-dedans, ça va durer 20 ans, ils disaient. Donc, c'était des bus formidables, sauf que c'est des bus qui les privaient complètement de leurs œufs mimosa à eux, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont boudé l'arrosage, parce que réparer ce vieux matériel qui se réparait encore avec les méthodes classiques de la mécanique, c'était comme une espèce de baroud d'honneur, mais c'était un adieu au métier aussi. Et c'est ça que la direction n'avait pas saisi. Donc du coup, le geste de la reconnaissance était complètement inadéquat, inapproprié. Et donc il se l'est pris dans la figure. Voilà.
Je vais prolonger ma question.
Non, c'est la fonction publique, donc ils ne craignaient pas trop de perdre leur emploi. Ce qu'ils craignaient, c'était surtout des formes de déqualification par rapport à l'action du métier. Les gens qui font la mécanique, en général, ils ont commencé. Alors, on va revenir sur le personnel professionnel. C'était très, très chouette ce qu'ils racontaient. Ils devaient tous commencer à faire de la mécanique dans le garage, petit garçon, avec un papa bricoleur ou un oncle bricoleur. Enfin, voilà, c'était quelque chose c'était une vocation, enfin, quelque chose qui était inscrit dans une histoire, la mécanique. Et donc, se retrouver avec des bus où, quand vous cassez une pièce, vous la réparez pas, vous la changez, pour eux, c'était terrible, quoi.
Je vais prolonger ma question à Laurence Théry en la complétant. J'entends bien que les entreprises qui font appel à l'ARACT ne sont pas forcément les entreprises lambda, puisque ça suppose qu'il y ait au moins à minima un consensus entre les partenaires sociaux pour vous faire intervenir. Mais je prolonge la question. Peut arriver qu'on vous demande d'intervenir pour analyser des situations de TMS ou on va dire de souffrance physique pour faire court, et puis après analyse vous rendez compte que le problème n'est pas du tout un problème de posture, mais que c'est un problème d'organisation du travail, et que là du coup on touche à quelque chose qui est qui relève de la prérogative de la majesté dans l'entreprise. Même les organisations syndicales ont du mal à s'aventurer sur l'organisation du travail qui est la prérogative du chef d'entreprise. Est-ce que dans ce cas-là, lorsque vous identifiez que le problème, c'est un problème d'organisation du travail, vous réussissez à intervenir et à faire évoluer les choses?
Oui, mais c'est toujours un problème d'organisation du travail. Donc, après, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on arrive à faire baisser les cadences, à supprimer les gestes répétitifs sous cadence, le port de charge, etc. Mais le fait d'aller regarder le travail et de renvoyer et de construire aussi avec un CHSCT, par exemple, la façon dont on va regarder le travail, dont on va rentrer en confiance avec les salariés pour qu'ils livrent un certain nombre d'éléments de leur travail. Ça, c'est déjà un résultat. C'est déjà d'une certaine façon permettre aux acteurs de regagner des capacités d'action et de discussion avec leur encadrement, avec la direction, etc. Donc déjà, dans la démarche, il y a potentiellement quelque chose d'assez intéressant et d'assez et ce que j'ai essayé de dire voilà qui est de l'ordre de la transformation, déjà de la transformation des représentations des uns et des autres. Quand on a un responsable HSE effectivement qui chronomètre avec les méthodes pour fabriquer tout quand tu as des embrayages, bon, évidemment, le fait qu'il fasse appel à l'ARACT et qu'il est embarqué dans une aventure un petit peu longue aussi, hein, parce que on ne fait pas de diagnostic court, en fait. Hein, enfin, en tout cas, on n'en fait plus.
Ils en ont souffert beaucoup des diagnostics courts. Moi, j'ai fait une enquête sur
ça lui permet de regarder lui le travail autrement et de se dire que voilà la question des TMS c'est pas une question de c'est pas qu'une question d'angle du poignet, d'angle de l'épaule, d'angle de etc. Donc la modification de l'organisation du travail elle est pas radicale. Mais elle est aux marges et elle est aussi pour les acteurs qui se saisissent des capacités de discussion après avec les salariés. Et quand on a construit finalement quand on montre que finalement la question c'est pas de ne pas faire son travail ou c'est pas d'emmerder le chef, la question c'est pas ça. La question c'est de faire le travail qu'on estime devoir faire pour être un bon professionnel. Déjà, ça change les relations de travail entre collègues et représentants du personnel, entre collègues et encadrement. Et quand on a une intervention qui a réussi à décaler un peu le regard sur le travail des uns et des autres, c'est déjà pas si mal. Et à faire en sorte que les gens discutent du travail, c'est déjà pas si mal.
Oui, c'est déjà très important parce qu'en plus, on ne sait pas ce qui va sortir de ces discussions. Du coup, il y a quand même une partie de l'action qui échappe complètement dans ce type de méthodologie-là. C'est qu'à partir du moment où les gens parlent, ils prennent aussi des décisions, ils font aussi des choses, des ajustements à l'organisation du travail que nous, on n'aurait jamais imaginé, ou que personne d'ailleurs, ni même eux, avant d'en avoir discuté, auraient pu imaginer. Donc, je crois qu'une grande partie quand même qui est commune aux interventions qu'on fait les uns et les autres, hein, c'est cette capacité à simplement aussi redonner de la place à la discussion sur le travail. Après, si ça marche bien, ça nous échappe, justement. C'est ça qui est intéressant.
D'autres questions ?
Moi, je suis secrétaire de CHSCT. Donc, à part le fait d'avoir de grosses difficultés à construire un accord sur les risques psychosociaux et à permettre d'identifier les risques à la fois collectifs et individuels dans l'entreprise, j'ai juste une remarque préalable qui... À un moment, je me dis, est-ce qu'on n'oublie pas aussi que l'employeur, il a une responsabilité pénale, civile et sociale vis-à-vis de ses salariés. C'est-à-dire qu'on est un petit peu content ou heureux que l'employeur s'engage dans une quelconque démarche d'appréciation des risques psychosociaux, mais finalement, il y a une vraie obligation de cette démarche. Donc... s'en satisfaire gentiment, je trouve que c'est un petit peu léger, quoi. Surtout quand, dans certains secteurs, il y a des suicides qui sont à répétition. Alors peut-être qu'il y a des fragilités dans certains secteurs psychologiques, etc., où il y a des personnes qui sont particulièrement fragiles, que tous les facteurs, on va dire, convergent vers quelque chose qui peut amener les salariés à se suicider. Mais enfin... À un moment, on peut se poser la question de la responsabilité pénale de l'employeur et de son obligation à entrer dans un processus d'identification des risques.
Oui, mais c'est comme vous le dites, c'est un vrai problème, c'est l'action de l'obligation, parce que tout le monde sait bien qu'une obligation, ça peut se remplir de plein de façons différentes, et particulièrement sur l'action des risques psychosociaux. Ce qui peut être très préjudiciable, hein, c'est qu'on peut tout à fait remplir l'obligation, hein, à coup de questionnaires, de grilles, etc. Et vous aurez rempli l'obligation, c'est-à-dire que sur le papier, l'employeur sera garanti, par rapport au pénal, etc., sans avoir strictement rien changé dans les faits ou pas grand-chose. Enfin, c'est quand même une des difficultés, vous dites, vous vous débattez, et je suis bien d'accord avec vous, c'est quand même une des difficultés avec lesquelles on se débat tous avec le problème des risques psychosociaux. Hein. C'est-à-dire que formulé de cette façon-là, de la manière dont ça a été formulé, c'est pas d'un maniement très facile en dehors, effectivement, de l'idée d'un cadre de protection juridique des uns et des autres. Mais c'est pas ça le problème.
Le problème, c'est de faire que les conditions soient moins difficiles pour les gens. Avec, encore une fois, hein, je le redis, hein, moi, je n'ai pas du tout dans l'idée qu'il y a des secteurs où il y a des gens plus fragiles ou qu'il y a des gens plus fragiles. Je pense que nous sommes fragiles. Et puis, si on nous soumet à des conditions qui sont un peu difficiles, bah, ça se voit. Mon idée est beaucoup plus d'étendre la fragilité à tous, hein, que de dire qu'il y aurait localement des gens qui le seraient, puisqu'il y a des situations où il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres. Voilà, je le crois profondément. Mais le suicide, en même temps, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est l'arbre spectaculaire qui cache plein d'autres problèmes de maladies, de décompensations qui sont liées avec le travail et qui sont aussi parfois moins visibles.
Oui, le droit du travail sur la question de santé au travail est constamment renforcé. Ouais. Constamment renforcé, que ce soit pour les risques psychosociaux, dernièrement la pénibilité, les risques CMR, etc. C'est un cadre indispensable. C'est un cadre indispensable. Et pour autant, il ne suffit pas. Il ne suffit pas à faire que les indicateurs en matière de santé au travail s'améliorent, puisqu'ils se dégradent. Et en revanche, en même temps, je vous dis ça, et en même temps, je pense que vous avez raison. Et en plus, l'histoire vous donne un peu raison, parce que finalement, les avancées en termes réglementaires, on les doit au droit. Et on les doit à des batailles, prenons l'amiante, aux victimes de l'amiante, qui nationalement puis internationalement, commencent à agir en faveur du renforcement de l'obligation de sécurité des entreprises. Sauf que en France, cette question de la judiciarisation du travail, elle se fait, de mon point de vue, de façon assez individuelle. Les prud'hommes sont pleins de situations de souffrance, etc., et de plus en plus. Et il n'y a pas vraiment, notamment syndicalement, de stratégie syndicale pour, par le droit, obtenir des éléments de renforcement des obligations de l'employeur. Et en même temps, on voit bien que, d'une certaine façon, alors c'est un peu caricatural ce que je vais dire là, mais l'exemple de l'amiante le montre, il n'y a que la sanction pénale, enfin que, en tout cas, fortement, la sanction pénale a modifié les pratiques en matière de prévention et a fait évoluer les réglementations en matière de prévention. Donc, en même temps, je pense que vous avez raison, sauf qu'aujourd'hui, cet outil-là n'est pas stratégiquement utilisé. Il y a des arrêts de la Cour de cassation qui reconnaissent la pénibilité du travail pour les salariés qui ont été licenciés pour inaptitude suite à un accident du travail et qui donc vont être privés d'emploi durablement. Ça, on peut dire que cette jurisprudence, elle ouvre la porte à la possibilité de reconnaître la pénibilité du travail pour des salariés licenciés pour inaptitude en lien avec leur travail. C'est un cas isolé. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un article dans une revue que je vous recommande, la revue Santé et Travail.
La revue des CHSCT.
Qui s'adresse notamment aux CHSCT. Et cet article-là, sur cet arrêt de jurisprudence, il s'est retrouvé dans le bilan annuel de la Cour de cassation comme étant pointé comme effectivement un risque spécifique. Personne ne s'en empare, ça.
Quelques secondes. Pour les syndicats, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, la procédure prud'homale, elle est individuelle.
Ouais.
Donc, on est complètement démunis dans la mesure où les salariés hésitent à entrer en contentieux individuellement.
C'est vrai, en même temps, sur l'amiante.
Donc on connaît bien les brèches juridiques qui existent, mais pour autant, il manque d'un combat collectif qui dépasserait les syndicats.
Oui, mais je pense qu'il y a vraiment un problème dans la comparaison avec l'amiante, parce que déjà l'administration de la preuve du lien de causalité entre l'amiante et les cancers de la plèvre a été très difficile à établir. Mais alors, pour ce qui est des risques psychosociaux, et c'est ça la difficulté, je crois vraiment, c'est que la souffrance ne se mesure pas, ne se met pas en rapport de causalité de la même manière que, justement, tout l'échec de la première psychopathologie du travail, Louis Le Guillon, etc., ce qu'on raconte tout le temps, hein, c'est bien de s'être calqué sur la toxicologie industrielle et donc, justement, de ne pas avoir pu montrer, alors qu'on peut montrer qu'il y a des maladies physiques occasionnées par le travail, on ne peut pas montrer de la même manière qu'il y a des maladies psychiques occasionnées par le travail. Et c'est là où je crois qu'on a une grosse difficulté actuellement et où les risques psychosociologiques ne nous aident pas, parce que les risques psychosociologiques, bon, même quand c'est fait très bien et très bien, c'est quand même une notion qui ramène à un type de causalité.
Non, mais c'est vrai, mais en même temps, ça, mais pour autant, ça n'échappe pas au droit.
Ah non.
Et notamment, il y a des exemples, hein, des exemples de reconnaissance. Les suicides de Guyancourt, de Renaud Guyancourt, ont été reconnus pour faute inexcusable de l'employeur au civil, alors pas au pénal, mais bon, c'est une étape. Donc, faute inexcusable de l'employeur. Donc là, le juge a considéré que le lien avec le travail était fait. C'est le juge qui a fait ce lien-là. Et y a d'autres exemples. Les C2RMP reconnaissent aussi des maladies professionnelles dans certaines conditions en lien avec la souffrance au travail. Alors c'est parcellaire, c'est très peu en volume, marginal, mais ça se développe. La CARSAT, la CNAMTS, fait un suivi des accidents du travail, donc tentative de suicide, reconnu, accident du travail. Donc fait ce suivi-là. Alors, ce n'est pas encore totalement diffusé, mais donc, on voit bien que, même si, effectivement, je suis d'accord avec Pascal Moulinier, la comparaison avec le risque industriel classique est très difficile, on voit bien que là, quand même, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est en train quand même de s'élaborer.
Et il y a un point commun entre les deux problématiques que vous citez et que vous avez soulevées également, c'est que pour beaucoup, c'est le droit de la réparation, donc le droit de la sécurité sociale via la réparation des accidents de travail, des suicides, etc., qui contribue à cerner la notion de risques psychosociaux. Parce qu'au fond, on ne va appeler que ce qu'on a finalement réparé ou indemnisé à un certain titre. Et c'est vrai qu'il y a une contribution respective entre, d'un côté, une notion à géométrie très variable dans le droit du travail, sur comment on évalue, qu'est-ce qu'on fait, etc., puisqu'on ne l'a même pas mis au pinacle dans la prévention de la pénibilité. Par exemple, les risques psychosociaux ne sont pas dénommés en tant que tels, alors qu'on les cerne de mieux en mieux via la problématique de la réparation, faute inexcusable, caractérisation d'accident de travail ou maladie professionnelle. Et la responsabilité suivra le même sillage, j'allais dire, comme ça a été le cas pour les autres affaires des autres pathologies d'horizon responsable.
Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans le cas de l'amiante, ça émane quand même de stratégies des associations, notamment l'ANDEVA, qui est de dire bah, ce dossier-là, on va le présenter en premier, ce dossier-là, on attend. Ce dossier-là, voilà, il y a aussi une construction collective via cette association nationale devant les tribunaux, ne pas mettre n'importe quel dossier en avant, parce qu'on sait bien qu'un dossier fait jurisprudence, etc. Donc, voilà, c'est pas une somme d'individualités qui sont allées au prud'homme et qui ont donné les arrêts fondateurs de l'obligation de résultat. C'est quand même une construction, une élaboration un peu stratégique des liens entre droit et santé au travail.
Alors après cette question justement sur le rôle des CHSCT finalement qui faisait
Je voulais dire quand même il y a quelque chose qui est complètement nouveau aussi pour les gens qui travaillent dans les CHSCT c'était absolument différent il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années, c'est que maintenant ils sont aussi les personnes qui sont en première ligne souvent pour écouter la souffrance au travail et que du coup pèse aussi sur les membres des CHSCT un poids tout à fait considérable et qui change complètement aussi le contenu de leur mission et puis la pénibilité, la difficulté de faire ce travail au sein des CHSCT. Ça, c'est important de le rappeler aussi, je crois.
Et qui change effectivement les pratiques syndicales dont on parlait juste avant, y compris des partenaires sociaux. D'autres questions ?
Parce que c'était vraiment pas la tâche la plus noble.
Oui. Eh bien, écoutez, on va donc mettre fin à ces débats.